Alors, bien chers amis, nous en sommes à la face B de la cassette et je vous dis Pax Vobis, que la paix soit avec vous. Nous allons poursuivre cette énumération des principaux méfaits de l'esprit de pouvoir. Nous avons vu avant de terminer que l'esprit de pouvoir n'a jamais de cesse, ne connaît ou ne reconnaît jamais ses limites. Voyons en second lieu que l'esprit de pouvoir engendre, veut pas, la suffisance, dans les deux sens suivants du terme. Suffisant par lui-même, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il lui faut, il s'est doté de tous les moyens, toutes les ressources et les solutions nécessaires, et l'esprit de pouvoir se suffit à lui-même, mais suffisant en lui-même, c'est-à-dire qu'il a rapidement une très haute ou trop haute idée de lui-même, ne doute de rien, devient prétentieux et téméraire. En troisième lieu, l'esprit de pouvoir engendre nécessairement l'autoritarisme et tout son cortège de conséquences. Centralisation, contrôlite, inquisition, etc. L'autoritarisme déclenche également l'embonpoint inévitable des structures des cadres. Disons également que le pouvoir doit établir des règlements, des mécanismes de contrôle, des conditions et des exigences, d'où tout le domaine juridique et légal qui s'amplifie. Ce secteur, lui aussi, n'a pas de limite. Et alors, on glisse vers le légalisme qui aboutit à un véritable culte, un amour de la loi au lieu de la loi de l'amour. Tout doit se définir, se prévoir, se vérifier. On multiplie les règlements à propos de tout, dans tous les aspects de la vie de l'Église. Et actuellement, c'est une surenchère incroyable. On ne se fie pas aux normes et aux exigences de l'Évangile, on préfère tout réglementer, tout gérer, tout encadrer dans des textes de loi. Cinquième méfait, un des grands dangers de l'esprit de pouvoir, c'est qu'il referme sur lui-même et emprisonne le déjà acquis et sous contrôle. Donc, comme je disais plus tôt, on le met en conserve. Et on est donc opposé à tout ce qui remet en cause, est trop nouveau, obligerait de modifier nos us et coutumes. Et on trouve cela trouble fête, déstabilisant, quand quelqu'un arrive avec des idées de renouveau. Bref, de par sa nature même, l'esprit de pouvoir favorise le conservatisme, le statu quo. Il est allergique au changement, sauf si c'est lui qui le propose. Sixièmement, par voie de conséquence, les gens deviennent alors passifs, de plus en plus dépendants. Sous l'emprise de l'esprit de pouvoir, ils renoncent à leur liberté, se laissent porter et bercer. Et cette non-liberté, il va sans dire, étouffe progressivement, lentement mais sûrement, la spontanéité, la créativité, le sens de la responsabilité. En septième lieu, l'esprit de pouvoir humain crée, sans s'en rendre compte souvent, toute une série de difficultés, de barrages routiers, d'obstacles à l'accueil et à l'action de l'Esprit Saint. Les fidèles en sont d'ailleurs distraits par tout l'appareillage même de l'Église. Et on pourrait poursuivre cette liste et détailler encore bien davantage tous ces points. Ce qu'il faut comprendre, en résumé, c'est que le pouvoir humain, d'abord voulu pour appuyer la puissance divine à l'œuvre, c'est une bonne intention de départ, s'est affirmé de façon exagérée, a pris la place importante et prioritaire en Église, l'a encombrée, compliquée, alourdie, puis peu à peu dénaturé, dévié de son style originel voulu par le Seigneur. Elle a dû en payer le prix et les conséquences, entre autres, comme la perte de liberté spirituelle, de vivacité et de vitalité spirituelle, de souplesse et d'adaptation continue, de lucidité et de crédibilité. Passons au deuxième article de ce même point, les méfaits de l'esprit de pouvoir sur le circuit de l'autorité-obéissance, au niveau des fidèles par conséquent. Eh bien, qu'on le veuille ou non, l'esprit de pouvoir, car qu'on le veuille ou non, il menace, conditionne fort mal les fidèles. L'esprit de pouvoir met en branle tous les mécanismes de défense possibles. Les peurs de l'autorité, la gêne face à l'autorité, les calculs pour influencer l'autorité, la courtisanerie pour obtenir des faveurs, des permissions, les blocages pour se protéger, les distances pour se protéger également, etc., etc. Et tout cela complique chez les fidèles l'écoute du Seigneur, complique la venue de l'Esprit-Saint, tend, dans du verbe tendre, les relations inter-individuelles, entretient un genre de qui-vive souvent malsain en Église. Beaucoup ont déjà été blessés par leurs autorités, familiales, scolaires, politiques, professionnelles. Ils redoutent de trouver les mêmes abus en Église et sont souvent méfiants a priori et défiants a posteriori. Moi, je l'ai déjà dit en d'autres occasions, je suis toujours surpris par la peur des prêtres et même des laïcs face aux évêques. Annoncer à un prêtre ou un laïc dirigeant qu'il est appelé à l'évêché, par exemple, plusieurs en seront tout bouleversés et inquiets. Certains en seront même troublés dans leur sommeil la veille, voire même dans leur bien-être physique ou psychologique. Et pourquoi? Il n'y a pas d'autre explication, c'est que cette autorité fait peur. Par ailleurs, annoncer à quelqu'un, à ces mêmes personnes, que Jean-Paul II les invite en audience, elles sont énervées, intimidées, mais elles ne voudront pas le décevoir et elles n'en auront pas peur. Pour ces personnes, Jean-Paul II impressionne, certes, mais par l'amour, la joie, la bonté, l'esprit de service qui émane de lui, ce qui n'est pas perceptible ou perçu chez bien d'autres chefs de file en Église. Chez Dieu, l'esprit de pouvoir est parfait, est infaillible. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper, il ne peut pas abuser, il ne peut pas écraser. Mais chez les humains, par ailleurs, l'exercice du pouvoir est facilement défectueux, abusif, biaisé. Et c'est pourquoi, dans la société civile, dite démocratique, on a voulu répartir le pouvoir entre diverses institutions. Le pouvoir exécutif au gouvernement, le pouvoir législatif au Parlement, et le pouvoir judiciaire aux tribunaux. Cela a pour but d'atténuer le plus possible les abus de pouvoir. Or, de facto, dans deux secteurs pourtant importants de la vie de notre société, la vie familiale et la vie ecclésiale et religieuse, cette répartition n'existe pas. Les parents ont à toute fin pratique tous les pouvoirs. Les chefs d'église et de communautés religieuses ont tous les pouvoirs en pratique. Ils commandent, ils légifèrent, ils jugent, et s'ils sont le moindrement insécures, sous pression ou désireux de contrôler, eh bien, leur exercice de la justice est facilement faussé, injuste, conséquent. Raison de plus pour nous en Église de renoncer à l'esprit de pouvoir et en venir à l'esprit de service. On sait que, en pratique, le pouvoir est toujours celui qui, en définitive, établit les règles du jeu, tout simplement pour affirmer et confirmer son pouvoir. Et un pouvoir n'aime pas perdre la face ou se perdre tout simplement. Quand on reconnaît qu'en Église, par exemple, tout pouvoir vient de Dieu, ses commandements viennent de son divin, son commandement nouveau vient du Seigneur, ses enseignements, ses conseils évangéliques, tout cela devient important. Ils deviennent les lois à respecter, les exigences à s'imposer. Si l'on veut vraiment que son pouvoir avec un grand S et un grand P, celui de Dieu, continue à opérer. Alors que lorsque nous nous approprions le pouvoir de façon exagérée et y substituons le nôtre à toute fin pratique, deux tristes effets s'en suivent inévitablement. Primo, les exigences divines perdent de leur vigueur, on les a atténuées, éclipsées. Secondo, ce sont nos exigences à nous qui prennent le dessus et s'imposent, car on devient jaloux de notre pouvoir à exercer et à conserver. C'est hélas comme ça qu'on voit tant d'hommes et de femmes en Église qui semblent mener de front deux vies. D'une part, ils et elles sont bons, dévoués, généreux, soucieux du règne de Dieu, priants, fervents même. Et d'autre part, par ailleurs, lorsque leur autorité, c'est-à-dire leur pouvoir, est en cause, et le moindrement interpellé, menacé ou discuté, ils deviennent intransigeants, brusques, cassants même, et manquent de façon surprenante et même parfois gravement à la charité chrétienne, à la justice, aux droits légitimes des personnes. Et tout cela, on le sait, est évité aux autorités qui, au contraire, et il en existe beaucoup, qui sont en état, en esprit et en habit de service. Passons au cinquième point, intitulé « Notre vécu, bien vécu » aux fondations, au niveau des fondations. Notre expérience nous a amenés, dès le point de départ, à refuser tout à fait toute forme, même apparente, d'état de pouvoir. Et nous avons voulu, dans la fidélité et l'obéissance au Seigneur, procéder en esprit, en état et en habit de service. Beaucoup dans nos milieux se seraient attendus que la promotion du style 2 nouveau, appelé à remplacer le style 1 actuel, se fasse avec une démonstration de force, de nombre, d'activités nouvelles, de publicité. Bref, tente de recruter des effectifs considérables, d'organiser des ralliements qui font la manchette, de constituer un courant de pensée dans l'ensemble du peuple. On se serait attendu aux tambours et trompettes. Or, rien de tout cela ne s'est produit, tout simplement parce que ni voulu, ni recherché, ni désiré, ni nécessaire. La mission des fondations n'a eu recours à aucun des moyens courants qu'emploie l'Église en style 1. Tout s'est déroulé discrètement, pas de publicité, relativement peu de réunions, aucun recrutement, pas de regroupement de masse, pas de structure, uniquement des gens libres et volontaires de venir ou non, ou de se retirer, poussé à venir ou inspiré à venir malgré les influences nombreuses contraires. Donc, aucun, mais aucun déploiement de force, aucune affirmation de pouvoir humain, ce qui a permis au pouvoir divin de passer, d'éclater et de produire ses fruits les meilleurs et en surabondance. Et pour nous, conscients que c'est lui qui œuvrait, nous nous sommes contentés de nous mettre en esprit, en état et en habit de service. Et à travers une très, très modeste contribution de notre part, que lui-même a profilé, a demandé, nous ne cessons de le voir, lui, le Seigneur, renouveler à fond son Église, à la grandeur du monde, à travers une minuscule portion de son peuple qui a dit oui. Laquelle portion de son peuple, par sa foi et l'audace de son oui, mérite toutes les grâces pour tous les autres oui, connus ou inconnus. Et pourtant, quel paradoxe étonnant, les gens du style 1 actuel ont une peur bleue de ce qui leur apparaît comme un pouvoir menaçant pour eux et elles. Or, ce n'est pas notre pouvoir qui s'affirme, mais bel et bien le sien, celui du Seigneur. Et s'affirme à travers des gens, souvent sans pouvoir, sans savoir, sans avoir, humainement ou ecclésiastiquement parlant. Quand on exerce un don de l'esprit, un charisme de l'esprit, on exerce, qu'on le veuille ou non, un certain pouvoir, un peu comme le violoniste qui fait vibrer son violon, même s'il sait que le son sort du violon, il se rend quand même compte que c'est lui qui lui fait produire ce son. Si on laisse libre cours au constat de son pouvoir, on gruge d'autant l'esprit de service qui est à l'origine de ce don, charisme ou ministère. Si j'accorde 50% d'attention à mon pouvoir, mon esprit de service n'est plus qu'à 50%. Service à l'esprit. C'est ainsi que le clergé a peu à peu glissé dans le cléricalisme en étant de plus en plus conscient de son ou de ses pouvoirs. Et ça nous rappelle la réflexion que l'on retrouve dans l'évangile de Saint-Luc quand les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient, « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Et vous rappelez la réflexion de Jésus, « Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, donc de votre pouvoir à vous, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Dès le début de la mission prophétique que le Père m'a confiée, j'ai voulu me prémunir contre cette subtile tentation, ce piège possible. Le slogan « maison » que vous m'avez souvent entendu employer, « Je suis un petit gars qui fait de la livraison pour son bon papa », visait à me rappeler constamment que j'étais en état, en esprit, en habit de service, et de toujours replacer mon rôle instrumental en ses justes et modestes proportions, tant à mes yeux qu'à ceux des autres. Le petit livreur de journaux qui va de porte en porte, il sait bien que ce n'est pas lui qui a conçu, rédigé, financé ou imprimé le journal qu'il distribue. Mais, en esprit de service, Il se soucie d'en assurer la livraison la meilleure et à l'heure. Passons au sixième point. Comment déceler si on a ou non une tendance personnelle innée ou acquise à l'esprit de pouvoir? Disons immédiatement que l'esprit de pouvoir n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Ça ne vient pas tout à coup comme un extraterrestre. L'esprit de pouvoir naît et se développe peu à peu chez des individus qui, à leur tour, l'implantent, l'importent dans leur vie et l'exportent dans le monde et l'Église. Il est donc important pour chacun et chacune d'entre nous de vérifier s'il a ou si elle a ou non ce gène, G-E accent grave, qui gêne, G-E accent circonflexe, ce virus qui compromet tant de comportements pourtant valables et bien intentionnés. Disons d'abord, au point de départ, que l'esprit de pouvoir, en général, vient ou d'un complexe d'insécurité qui veut se compenser, ou d'un complexe de supériorité qui veut se démontrer. Tout part d'en haut et devient directif à l'égard des relais et de la base. Il s'ensuit alors que toute l'action de l'Esprit-Saint, accueillie à la base par les fidèles, est carrément ignorée et inhibée dans sa remontée par ce dirigisme du pouvoir qui vient d'en haut. Moyen de discerner si on a ou non l'esprit de pouvoir, de domination, puis on peut l'avoir, vous savez, malgré une allure et un comportement de dévouement inlassable, de désir sincère de rendre service. Voici des manières de le reconnaître. Le fait d'avoir la non-habitude d'accepter les offres de service des autres lors d'une réception chez soi, décliner toute offre d'aide, avant, pendant ou après, sous le beau prétexte, sous les beaux prétextes, tout est prêt, reposez-vous, laissez-moi faire, etc. Camoufle un esprit de pouvoir. L'incapacité à partager son ou ses responsabilités ou ses tâches, afin que tout soit fait uniquement à sa manière, à son goût, remis à sa place. Imputer aux autres le goût, la volonté d'agir seul, et donc s'interdire d'offrir ses services pour ne pas les ennuyer. C'est l'esprit de pouvoir, mais à rebours. On l'a, puis on l'impute aux autres, qui ne veulent pas d'aide, parce que nous autres, on n'en veut pas quand c'est notre cas. Être incapable de s'intégrer aisément dans une conversation déjà en cours, une réunion amorcée, une activité en route dont on n'a pas eu ou dont on n'a pas le contrôle. Un autre moyen de savoir si on a un esprit de pouvoir ou de service, son degré d'accueil ou non de tout ce qui nous vient des autres, en fait de conseils, de remarques, de questions, d'interpellation, de mise au point, de mise en garde ou en demeure. Celui ou celle qui a l'esprit de pouvoir, que ce soit conscient ou inconscient, est toujours menacé, agacé, suspect, quand d'autres se permettent de commenter ses dires ou ses agir. Il et elle redoutent constamment que son pouvoir, ou du moins celui qu'il croit avoir, soit remis en cause, affaibli aux yeux de ses interlocuteurs qui l'exhortent. Ceux et celles qui marchent par esprit de pouvoir finissent toujours, on le sait, par se donner un style et une image. Et toute intervention des autres défie, directement ou indirectement, leur style et leur image, celles qui se sont données. Une précision en passant, l'esprit de pouvoir ne se retrouve pas seulement chez les gens en poste d'autorité. On retrouve ce subtil esprit même chez les simples soldats, chez les gens aux complexes et réflexes d'infériorité ou d'indignité, connus ou déclarés. En terminant, disons que ceux et celles qui sont imbus d'esprit de pouvoir, la seule idée du nouveau renouveau continu, fruit majeur du style 2 en l'Église, est non seulement indigeste, mais trouble fête face à la stabilité et au contrôle qu'exige l'esprit de pouvoir. C'est même pour certains dangereux de croire à cela et anarchique. Donc, il faut s'y opposer. Voyons l'autre côté de la médaille. Quand quelqu'un ou quelqu'une est vraiment animé de bord en bord du véritable esprit de service dont parle Jésus à tous ses disciples et apôtres de tous les temps, et je cite, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Matthieu 26, 28. Ses disciples, imbus de l'esprit de service, vraiment soucieux de servir les autres et de mieux en mieux, sont au contraire normalement très ouverts aux conseils, aux remarques, aux reproches même, aux exhortations des autres. Plus on a l'esprit de service authentique, naturellement et surnaturellement, plus on a intérêt à connaître l'état d'esprit de cœur des autres et à s'améliorer de plus en plus. Et ce, même si l'on sent qu'ils se trompent, exagèrent ou font des transferts ou de la projection sur nous en nous faisant leur remarque. C'est ça, donner sa vie pour la multitude. Accepter celle-ci, la vie comme elle est, l'aimer et la servir, en deux mots, à la recherche ou à l'écoute de ce qu'elle désire et attend de nous. Je le redis, même si ça pince parfois. Chez la femme ou l'homme exemplaire en fait d'esprit de service, le nouveau renouveau continu commence à domicile, chez soi et au fond de soi. C'est la course au trésor caché, le meilleur de soi-même, encore enfoui, à retracer et à révéler. Et l'aide des autres est recherchée et appréciée, car on est souvent mauvais juge de ses propres valeurs et de ses propres causes. On sait que la qualité de notre service aux autres dépend largement de notre propre qualité d'être. On redoute le statu quo et la routine, tant en soi que dans sa manière de servir. Alors, en terminant ce point, il est bon de s'interroger chacun d'entre nous dans son attitude, en pensée, en parole ou en acte vis-à-vis ses amis, son conjoint, ses enfants, ses confrères, ses consoeurs. Comme par exemple, ai-je pris la décision à toute fin pratique avant de consulter? Ai-je déjà conclu que l'idée de l'autre n'aura pas de valeur ou d'importance avant même de l'avoir entendue? L'autre entre-t-il ou entre-t-elle en ligne de compte quant à ses goûts, ses préférences, ses besoins dans ce que je propose? Est-il important pour moi que mon idée l'emporte? Ai-je besoin d'affirmer continuellement une certaine supériorité, habilité, autorité? Si, dans ma vie courante, l'esprit de pouvoir est installé à demeure, on peut présumer qu'il fera surface dans l'exercice de mes fonctions et missions auprès des autres. Notons en terminant que l'esprit de pouvoir attise l'égoïsme. L'esprit de service, au contraire, exige et favorise l'altruisme, c'est-à-dire la disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Passons, et vous voyez que j'accélère le pas de course, car on a encore plusieurs points importants à parcourir. L'Église doit renoncer à cet esprit de pouvoir et laisser le pouvoir de l'Esprit lui réapprendre l'esprit de service. L'Église doit renoncer à assurer son autorité par la domination tant face aux autres qu'à l'intérieur d'elle-même. Dans l'Église, il doit certes y avoir de l'autorité, comme d'ailleurs je l'ai affirmé sans équivoque dans l'interpellation aux Églises intitulée « Essor ou déclin de notre Église ». J'avais même dit que cette autorité en l'Église doit même être forte, mais elle ne doit pas s'exercer comme dans le reste du monde, où s'affirme la domination des uns sur les autres. Je cite Jésus, Marc 10, 42, « Vous le savez, précise Jésus, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations tiennent leurs sujets sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. » Et Jésus ajoute au verset 43 à 45, « Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et s'il veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » De prime abord, c'est une logique qui étonne, qui déconcerte même. Imaginons une autorité qui s'affirme, mais en renonçant à ses propres intérêts, pour se consacrer aux autres dans le service, par le témoignage de ses convictions, jusqu'au don total de soi, de sa vie, comme Jésus l'a fait. L'Église ne doit même pas imposer, je dirais, à l'ensemble de la société en dehors de l'Église, ce qui lui semble à elle bon, vrai, juste ou légitime. Elle peut proclamer, réclamer en donnant l'exemple et mourir pour cette cause si nécessaire. Mais vouloir s'imposer à la société humaine par le pouvoir et la domination finit toujours, comme on le sait, par compromettre l'autorité apostolique de l'Église et contredire l'Évangile lui-même. L'autorité en Église, dans sa manière de s'exercer, ne peut pas davantage et ne doit pas se calquer sur ce qui se pense ou se passe dans le reste de la société, ni s'appuyer sur la volonté humaine du pouvoir, ni importer les modes de contrôle, de pression, de commandement propres aux autres secteurs du monde. On lit d'ailleurs dans l'Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. » Et en disant cela, Jésus dénonce les soi-disant docteurs qui se croient suprêmes et veulent dominer par leur savoir. Il ajoutait, « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. » Et en disant cela, Jésus dénonçait ceux et celles qui, par leur paternité ou maternité, même via la direction spirituelle, surprotègent et s'approprient leurs enfants spirituels. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. En fait, les gens en autorité ne se font pas appeler maîtres, mais plusieurs ne dédaignent pas être considérés comme tels. Leur esprit de pouvoir les amène consciemment ou inconsciemment à parler en maître, à agir ou réagir en maître. Et Jésus conclut par un bouquet spirituel, « Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Ce qui pourrait se traduire ou s'expliquer de la manière suivante, « Quiconque aura laissé l'esprit de pouvoir s'emparer de sa mission, d'enseignement spirituel, de paternité spirituelle, d'autorité spirituelle, de direction spirituelle, sera abaissé du piédestal qu'il s'est donné. Quiconque, par ailleurs, qui aura vécu tout cela en esprit de service vrai, sera élevé. » Et je vois que le temps passe, alors je file directement au point suivant. Le style de nouveau doit continuellement se surveiller, se protéger et s'immuniser contre toute résurgence ou réapparition possible de l'esprit de pouvoir. Le style 2, il est souverainement important de toujours se le rappeler, de sorte que jamais, au grand jamais, il doit se mettre en place, se faire valoir et gagner ses épaulettes en se laissant entacher par l'esprit de pouvoir, c'est-à-dire par nos efforts à bout de bras. Au contraire, en style 2, nous devons laisser ce style gagner du terrain d'abord au fond des âmes, par l'action de la grâce toute spéciale du Seigneur, et voir le style 2 sortir de terre, fleurir et porter du fruit en abondance en Église, étant entièrement l'œuvre du Seigneur, donc de son pouvoir divin et non d'une autre. Dès que ce style 2 nouveau apparaît au fond de nous-mêmes d'abord, puis chez les autres autour de nous, et qu'il prend corps au milieu de nous sous sa mouvance, nous devons le vivre absolument en esprit, en état, en habit de service. C'est-à-dire toujours disponible et docile à servir, où, quand, comme, étant et auprès de qui, lui, l'esprit, veut que nous servions. Comme je dis souvent à la blague, dans le style 1, on tente de se rendre célèbre. Dans le style 2, c'est lui qu'on célèbre. Donc, patience. N'allons pas tirer sur les tiges ou les racines pour accélérer l'avènement généralisé du style 2 nouveau. Vous savez, il n'y aurait pas de problème de transition en Église, ou il y en aurait beaucoup moins, si tout ce qu'on appelle en Église, du haut savoir, du haut vouloir, du haut pouvoir et même du haut devoir était vraiment et toujours du savoir d'en haut, du pouvoir d'en haut, du vouloir d'en haut et du devoir d'en haut. Or, hélas, c'est bien loin d'en être le cas. Il y a beaucoup de savoir d'origine et de portée terre-terre, beaucoup de pouvoir d'origine et de portée purement humaine à notre gloire, beaucoup de vouloir produit de nos désirs et goûts éphémères et terrestres, et enfin, que de devoirs ont été et sont et seront créés, exigés, contrôlés, montés en épingle par nos instincts légalistes et formalistes. Le style 1 nous conduit à ce type d'église produit maison, d'une église qui tend à presque, je dis presque, se robotiser, à en croire ou voir certains, qui a presque le culot de vouloir s'imposer à Dieu parfois, alors que le style 2 nous entraîne à désirer, attendre et accueillir de plus en plus, de mieux en mieux, l'importation qui vient d'en haut, dans un état d'âme, de cœur, d'esprit et même de corps, grand ouvert au nouveau renouveau continu sur tous les plans, le savoir, pouvoir, vouloir et devoir, en lui, par lui et pour lui. À mes heures, dans la vie en Église également, j'ai connu, comme bien d'autres, cette course au pouvoir. Je l'ai cru même importante dans les premières années de ma vie sacerdotale, voire même indispensable à mesure que on me confiait des postes de responsabilité. Parce que, effectivement, dans le style 1, on ne peut mésestimer l'importance du pouvoir, car les loups rôdent nombreux aux alentours, et c'est facile ou c'est fréquent et ou c'est possible de se faire déplumer peu à peu ou dépouiller tout à fait. Il faut donc demeurer très vigilant et s'affirmer. Mais depuis ma conversion au style 2, au contraire, tout repose sur ce que lui veut et demande de moi. Seigneur, je t'en prie, donne-moi la claire vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir, comme on le lit souvent dans une prière liturgique bien connue. Et il le fait. Sûr de lui, je n'ai qu'à agir et tout finit par réussir. On jouit donc à la fois d'une grande liberté spirituelle et d'une grande assurance. Notre pouvoir vient du sien, de son pouvoir, et notre autorité vient de sa délégation à lui. Je n'ai plus alors à craindre personne si j'ai fait le nécessaire pour bien vérifier que c'est bel et bien lui, c'est-à-dire prier, écouter, partager, discerner, vivre en communautaire. À ce moment-là, je n'ai aucune inquiétude parce que c'est l'œuvre du Seigneur et lui l'a fait non seulement croître, mais il la purifie et la protège contre tous ses ennemis. Et je vois que le temps se termine, alors ce que je ferai, je réserverai pour le début de la prochaine cassette que nous enregistrerons cet après-midi sur l'esprit de service pour reprendre en capsule quelques réflexions, commentaires et conclusions de cet enseignement. Alors demandons, mes chers frères et mes chères sœurs, cette grâce au Seigneur, qu'il vienne nous rendre conscients de tout ce qui peut rester encore dans nos cœurs et nos esprits en fait d'esprit de pouvoir, qu'il le rende conscient en nous et que nous tendons les mains pour lui remettre nos faiblesses et lui demander de venir nous animer du sens de l'esprit de service dont nous parlerons dans la deuxième cassette. Amen. Alléluia.